Sur Radio Bus, vous écoutez la radio la plus rapide. Radio Gymnase de Nyon, 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 Nyon.
Bonsoir auditeurs et auditrices, nous sommes ici sur Radio Gymnase de Nyon.
Merci de nous écouter, moi c'est Sienna et je suis là avec Nouria et Claire qui a la technique et que vous entendrez plus tard.
Ensemble, on va vous présenter la suite des feuilletons et une chronique très intéressante.
Et oui, pour commencer, on continuera sur la lancée de nos camarades avec la suite du feuilleton sur l'Ukraine. Donc on espère que vous avez écouté les émissions des autres groupes. Hein.
Oui, surtout parce qu'ensuite on va poursuivre avec le feuilleton sur les femmes scientifiques que vous trouverez bien plus intéressant si vous avez suivi le parcours de ces quatre femmes en ayant écouté les autres thèmes que les émissions précédentes ont très bien abordé. Nous, on vous parlera de leurs études académiques.
C'est ça. Et pour finir, une chronique sur les événements à travers la presse où l'on va se concentrer sur l'insurrection de Budapest avec des journaux de la Tribune de Lausanne.
Oh, j'ai hâte de commencer les filles.
Alors, allons-y, ne perdons pas plus de temps. On est prêtes ?
Allez, go !
Passons au feuilleton sur l'Ukraine alors. On vous parlera du Donbass.
Radio Gymnase de Nyon, 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 Nyon.
Chers auditeurs et auditrices, nous continuons avec le feuilleton sur l'Ukraine en se focalisant sur le Donbass. Et si vous voulez plus de contenu sur le sujet, on vous invite à aller écouter les épisodes de nos camarades.
Oui, alors commençons tout de suite pour ne pas perdre de temps.
Bon, attends, on va commencer par une petite introduction pour nous remettre tous dans le bain quand même.
Oui, tu as raison, c'est une bonne idée. Alors en effet, commençons par le début. Nous allons explorer l'hypothèse que la guerre en Ukraine a commencé bien plus tôt.
C'est ça, grâce au texte publié dans le journal Le Monde en 2023 par le professeur Jean-Pierre Filu. Il affirme que selon le point de vue de l'Ukraine, l'agression russe a débuté il y a 8 ans, bien avant l'invasion de février 2022, avec l'annexion de la Crimée et la guerre dans le Donbass.
Exactement, selon Filu, je vous cite son texte pour mieux comprendre. En février 2014, un soulèvement populaire porté par une vague de drapeaux européens a en effet renversé un autocrate aligné sur Moscou. Et c'est pour punir l'Ukraine de cette révolution de la dignité que le Kremlin a déclenché sa campagne d'agression. D'abord avec l'occupation et l'annexion de la Crimée, ensuite avec la guerre du Donbass.
Nous allons donc regarder les événements qui ont mené à la guerre en Ukraine du point de vue, non pas actuel, mais le point de vue du moment où ces événements ont eu lieu. Et il faut souligner que c'est grâce à la presse que nous sommes capables de faire ça.
C'est ça, nous allons faire ça en lisant attentivement trois articles qui datent de 2014, plus précisément des articles du journal Le Monde. Un premier, publié le 21 avril, intitulé « La rhétorique guerrière de Poutine ». Le deuxième, sur « La survie de l'Ukraine menacée par les violences », publié le 5 mai également. Et pour finir, en Ukraine, un dialogue national qui paraît bancal et tardif, qui a été publié le 14 mai de la même année. Ces dates correspondent à une phase critique des tensions entre la Russie et l'Ukraine, notamment après l'annexion de la Crimée par la Russie en mars.
Parfait, alors maintenant qu'on est plus au clair, commençons.
Alors, le premier article a été écrit par Timothée Snyder, qui est un professeur d'histoire à l'université de Yale aux États-Unis. On va investiguer comment est-ce qu'il voyait la situation, lui, à ce moment-là, mais surtout, y a-t-il eu des signes avant-coureurs dans la guerre du Donbass, comme des indices qui auraient pu nous alerter une guerre russo-ukrainienne ?
Juste pour clarifier, la guerre du Donbass est une guerre opposant le gouvernement ukrainien à des séparatistes pro-russes et à la Russie.
Déjà, l'article commence avec cette phrase, en dénonçant le coup d'état fasciste à Kiev, la Russie fabrique un discours en dehors de toute réalité. Le Kremlin accusait l'Ukraine de fascisme et prétendait protéger les citoyens russes d'un prétendu génocide. Ceci est un premier indice montrant une mésentente entre ces deux pays.
Oui, il commence déjà en disant que la Russie a créé un prétexte pour, comme il le dit si bien, ouvrir la voie à la guerre.
Oui, clairement. Mais est-ce que ça suffit pour mettre en alerte ou bien annoncer une invasion telle qu'elle a eu lieu ?
Il y a aussi le discours de Poutine. Snyder le compare avec l'Anschluss en 1938, en faisant des parallèles à la Deuxième Guerre mondiale. Je pense que le lecteur pourrait voir qu'il s'agit d'un événement très sérieux.
C'est où déjà dans l'article ?
Regarde, c'est ici. Bon, je te le lis. Monsieur Poutine, voilà, brouille les cartes en parlant de compatriotes russes, une catégorie dénuée de signification juridique. Ce qu'il entend par là, ce sont les gens que le gouvernement russe définit comme tels ou qui, selon le Kremlin, s'autoproclament russes et ont donc besoin de sa protection. Ce même argument, la nécessité de protéger les compatriotes, a été utilisé par Adolf Hitler en 1938 lorsqu'il a formulé les prétentions allemandes sur l'Autriche et les Sudètes de la Tchécoslovaquie. La substitution par Hitler de l'origine ethnique aux frontières nationales a conduit au désastre de Munich, à l'apaisement et à la Seconde Guerre mondiale.
Avec de telles comparaisons, on pourrait s'attendre à une guerre plus grande que celle du Donbass. Et en plus, Snyder met en lumière le rôle de Poutine.
Oui, aussi, en lisant l'article, on voit qu'un des facteurs qui a contribué à la guerre en Ukraine est la montée de la désinformation et de la propagande. Et ce n'est pas que cet article qu'il dit, c'est corroboré par les deux autres articles, notamment avec le deuxième qui date du 5 mai 2014, à une semaine du référendum dans le Donbass.
Attends, d'abord rappelle-moi par qui il a été écrit celui-là ?
Ah oui, pardon. Alors l'auteur de celui-ci est Piotr Smolar, un correspondant à Jérusalem.
Et peux-tu nous donner les points importants de cet article ?
Alors d'abord, on a la montée de la tension dans le sud et l'est du pays avec les affrontements entre locaux pro-ukrainiens et pro-russes, ce qui montre un signe inquiétant. Et nous, on nous dit même que le gouvernement ukrainien était incapable de maintenir l'ordre et la sécurité dans cette région.
Il est aussi important de souligner le manque de dialogue et de confiance entre les deux camps. La propagande russe a joué un rôle crucial en diabolisant les pro-ukrainiens et en créant un climat de peur et de méfiance, surtout au sud du pays.
Oui, surtout qu'on a même pu le lire dans le premier article. C'est justement ce manque de dialogue et de diplomatie qui est mis en avant comme un des principaux problèmes qui ont joué un rôle important dans le conflit du Donbass.
Et qu'en penses-tu du référendum d'autodétermination et du scrutin présidentiel ? Tu penses qu'ils ont eu un impact important ?
Oui, car on évoque surtout l'incertitude entourant le référendum prévu le 11 mai à Lugansk et Donetsk, et le scrutin présidentiel du 25 mai dans l'ouest du pays, qui représentait un facteur de risque. Ils ont donc exacerbé les tensions entre les régions pro-russes de l'est et l'ouest de l'Ukraine, créant une division plus profonde au sein du pays.
Oui, et surtout, il ne faut pas oublier que la Russie a déjà montré ses ambitions territoriales en évoquant la création d'une Novorussia, une nouvelle Russie.
Ouais, en tout cas, c'est rendu clair par l'article que la situation en Ukraine est complexe et tendue, et les indices qu'on a trouvés avant rendent le conflit russe et ukrainien prévisible.
Oui, et de plus, le troisième article, le reportage sur les séparatistes armés de Donetsk et Luhansk, qui ne sont pas ouverts aux discussions, écrit par Louis Imbert et publié le 14 mai, souligne que le gouvernement de Kiev lance un dialogue national qui paraît bancal et tardif. On remarque que le gouvernement veut unifier le pays en apaisant les différentes factions.
Mais ça ne serait pas plutôt une porte d'entrée pour calmer les tensions et éviter une guerre ?
Oui, mais par contre, prenons le cas du dialogue national de Kiev. En excluant les séparatistes armés, l'article explique que le gouvernement ukrainien a manqué l'occasion d'amorcer un véritable dialogue qui incluait les différentes parties.
Oui, en plus, l'Ukraine fait face à des problèmes profonds comme la corruption et le dysfonctionnement institutionnel. Pardon.
Absolument. La corruption sape la confiance des citoyens dans le gouvernement et crée un climat propice à l'instabilité. En gros, ce que je retiens, c'est que l'Ukraine ne fait rien pour désamorcer les tensions et que de ses citoyens pro-russes et pro-ukrainiens.
Ce n'est pas que l'Ukraine qui jette l'huile dans le feu, hein. La Russie en fait tout autant.
Qu'est-ce que t'entends par là ?
Bah, les articles que nous avons pu examiner révèlent que la Russie utilise la propagande pour justifier ses actions militaires, ce qui attise les tensions dans l'est de l'Ukraine avec un discours sécessionniste quand il est dit que les médias russes parlent d'une guerre contre les populations russophones d'Ukraine.
C'est vrai. Bon, alors finalement, à travers les sources qu'on a étudiées, on peut en déduire que l'hypothèse de Filu était correcte. Le conflit russo-ukrainien a bien débuté il y a 8 ans, bien avant l'invasion de février 2022.
Tout à fait. Nous espérons que ce dernier épisode vous a plu et que vous avez trouvé cette petite enquête autant intéressante que nous.
Oui, merci énormément de nous avoir suivis dans ce feuilleton sur l'Ukraine et écoutons ensemble un joli morceau quoique ironique après ces articles. Voici Imagine de John Lennon. Bonsoir à tous les nouveaux arrivants. On est de retour après ce premier feuilleton et cette belle musique sur les ondes supersoniques de Radio Gymnase de Nyon. Cette fois, je suis avec Claire et c'est Nourrir la technique.
Nous allons continuer le feuilleton. On va discuter des femmes dans le monde scientifique.
On a parlé à 4 femmes scientifiques et on va étudier leur parcours.
À noter que ces 4 femmes sont d'une 50aine d'années. On fera donc un petit retour dans le passé. Donc on va pouvoir observer le changement du monde scientifique entre la fin du XXe et le début du XXIe siècle et comparer la société de maintenant à celle de leur époque.
Exactement. Nous, on va se concentrer sur les études académiques supérieures, mais si vous voulez en savoir plus sur leur parcours, nous vous recommandons d'écouter les émissions de nos chers camarades.
Donc, comme première question, on leur a demandé si elles étaient bien intégrées parmi les autres étudiants et s'il y avait un décalage par rapport aux hommes.
Exact, mais pour le coup, moi je pensais avant les interviews qu'à leur époque, il y avait un décalage remarquable. Surtout qu'à leur nombre, car le nombre de personnes était très sûrement beaucoup plus petit. Donc je pensais que c'était très possible qu'elles se soient senties plus seules.
C'était dans cette direction qu'allaient mes attentes aussi. Mais regardons ce qu'elles répondent. Commençons par Véronique.
Nous, on était très peu de femmes, c'est la première chose. Nous, on était 3-4, je crois, sur les 120, donc on n'était vraiment pas nombreuses. Mais sinon, non, c'était déjà assez ouvert, assez... C'est juste, oui, le décalage du nombre, en fait. Parce que maintenant, je sais qu'ils sont beaucoup plus nombreuses, les filles.
Bon, on voit bien qu'il y a au moins un décalage ressenti.
Des difficultés au niveau...
Les femmes n'avaient pas un traitement différent que celui des hommes, mais par contre, dans le nombre des élèves, c'est sûr que ça se remarquait. 3 ou 4 sur 120 hommes, ce n'est pas énorme.
Ouais, c'est sûr. Continuons avec Martia. Écoutons-la.
Alors, au niveau des élèves, oui, je pense que j'ai jamais eu de difficultés. Au niveau du système, le système inclut les profs, les assistants, la manière de construire un peu tout. Il y a une discrimination qui est assez tangible et pas nécessairement volontaire, je crois, mais toujours un peu des commentaires. Donc, je me rends compte plus maintenant qu'à l'époque. Mais par exemple, même des choses assez comme ça, légères. Il y a la miss qui arrive. On ne dirait jamais à ça un mec. Il y a le je ne sais pas quoi qui arrive, des choses comme ça. Et puis, il m'a le fait qu'on est très peu. Donc, il y a ces messages implicites, un peu, on est une minorité. Et puis, les femmes qui sont là sont aussi très connotées. Il y a une connotation très nerd. Et les hommes, il y a beaucoup, beaucoup plus de variété.
C'est clair, quand on t'interpelle « Hey, la miss », c'est dégradant pour une femme, surtout quand il n'y a pas le même traitement chez les hommes. On ne va pas dire « Hey, mec ».
Oui, par contre, pour Julia, elle est catégorique. Il n'y a pas de différence de traitement entre les femmes et les hommes aux études académiques.
Académique, non. C'est une fois qu'on rentre dans la vie active qu'on sent une différence.
Avant de tirer des conclusions, écoutons Karine Kimberger. Et je pense qu'il faut qu'on précise que Karine Kimberger a vécu une toute autre expérience pendant ses études.
Parce que nous, on était déjà partis, les élèves, on était beaucoup femmes, et aussi déjà les professeurs étaient déjà beaucoup femmes. L'océan est vraiment un thème où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Et de femmes vraiment déjà, voilà, quoi, très beaux docteurs, tout ça. C'est-à-dire, moi, j'ai pas du tout senti ça.
Ah oui, rien à voir avec les autres femmes. Elle a vécu une expérience qui démontre que certains domaines scientifiques, il pouvait avoir peu d'hommes. On peut aussi aborder la question du décalage entre les différents étudiants. Qu'est-ce qu'elle pouvait rencontrer comme difficulté lors de l'intégration dans un milieu d'étudiants majoritairement masculin ? Il faut quand même dire que dans la grande loterie des réponses de ces femmes, le ticket gagnant était unanime. Non, non et renom.
Oui, c'était une belle surprise, tu ne trouves pas ?
Oui, oui, on peut donc imaginer que les expériences de ces femmes changent beaucoup en fonction de leur faculté et du lieu où elles ont étudié.
Alors ça, c'est clair, c'est très bien de le remarquer.
Maintenant, j'ai très envie de découvrir ce qu'elles avaient comme relation avec leurs enseignants. Est-ce que ces relations pouvaient avoir un impact sur leur parcours ?
C'était justement la question suivante. Comment se comportaient les professeurs avec leurs élèves femmes ? Donc voici les réponses. On revient tout d'abord à Véronique, qui elle a le souvenir d'un prof de mathématiques en particulier.
Il y avait un prof en mathématiques qui faisait des différences entre les hommes et les femmes pendant son cours, en fait. Pour lui, un ingénieur, c'était un garçon. Enfin, c'était très stéréotypé, mais ça ne se reportait pas du tout sur les notes. Donc, il n'y avait pas de souci. Puis c'est un prof sur tous les profs qu'on a eus. Donc non, moi, je n'ai jamais senti quoi que ce soit, ni dans un sens, ni dans l'autre.
Quand j'entends le type de propos que pouvait utiliser ce prof de maths, ça me fait un peu mal au moral. Hein.
Bon, je me suis quand même demandé si ce comportement avait eu un impact sur les étudiantes femmes et surtout si elles se sentaient dévalorisées. Mais d'abord, écoutons ce qu'elle répond.
C'était plus drôle qu'autre chose. La seule chose que je faisais, moi, c'est que je me mettais tout en haut, au milieu. Comme ça, j'étais sûre qu'il n'arrivait pas pendant le cours vers moi, en fait. Il restait sur les bords. Mais si tu étais sur le bord, il faisait des remarques, des trucs. Maintenant, je pense que ça passerait plus du tout. Mais à l'époque, c'était aussi quelque chose... Enfin, ça faisait rigoler tout le monde, tu vois. C'était plus sur un ton d'humour que maintenant, on n'a plus. Je pense que ça passerait plus du tout, ce genre de comportement. Et puis, je me suis dit, c'était un prof, c'était 2 ans que je l'ai eu. C'est rien. Puis surtout sur les notes... Il n'y avait pas, j'ai jamais vu, moi j'avais des bonnes notes en plus chez lui, donc tu vois, c'était pas, il n'y avait pas une discrimination du tout des filles à l'école polytechnique, non.
Donc il n'y a vraiment pas...
Ah oui, donc il y a quand même des commentaires déplacés qui de nos jours ne seraient pas acceptés.
Mais au moins, ses notes n'étaient pas influencées par son sexe.
C'est ça, et en plus, elle a su garder de la distance et n'en a pas trop donné d'importance. Ça montre qu'elle est sans doute... Elle et sans doute d'autres femmes devaient se créer des carapaces pour ne pas se faire marcher dessus. C'est une bonne leçon. Comme on dit, l'ignorance est le meilleur des mépris.
Mais elle parle aussi de son directeur de thèse.
Je pense même que mon directeur de thèse, il était content d'avoir des filles. D'ailleurs, il a eu pas mal de filles comme thésarde.
Ok.
Donc, c'était plutôt l'inverse. Il était assez content de montrer que des filles pouvaient le faire, en fait. C'était un peu ça...
Même si ça peut paraître sexiste, ce monsieur voulait prouver la valeur des femmes dans le monde scientifique.
Ouais. Passons maintenant à Marzia Dalloutia. Elle nous a raconté qu'elle n'a pas eu d'expérience négative au niveau académique. C'est de même pour Julia Klockmann. Par contre, avec Karine Kimberger, nous pouvons voir que pour elle, en Espagne, c'était une bonne expérience, car comme elle le dit, son domaine n'est pas dominé par les hommes.
Pas si mal, quoi.
En effet, sur 4 femmes, une seule a eu une expérience qui n'était pas excellente. Mais on peut dire que pour ces 4 femmes, dans les études scientifiques académiques, n'ont pas de traitement différent que les hommes, ce qui est vraiment une bonne chose.
Et leur choix, il a été vu comment ?
C'est un autre aspect qui nous intriguait. Donc on leur a demandé comment est-ce que leur entourage a vu leur choix de devenir scientifique.
Alors, laisse-moi deviner. Même si je me suis un peu trompée avant, je veux réessayer. Je pense qu'à leur époque, elles ont quand même dû se battre et lutter contre les stéréotypes que même leurs proches avaient.
Alors regardons ce qu'elles disent, voir si tu as raison ou bien si leur choix a plutôt été valorisé. Commençons par Véronique.
Besoin de ça non plus, c'est fini ça. Les filles, elles n'ont plus besoin de se battre pour faire ce genre d'études. Mais déjà, même moi, je pense que les pionniers, c'était avant moi. Il y a des pionniers dans les années, oui, dans les années 80 ou dans les années 70, là, oui, elles étaient toutes seules et puis ça, c'était autre chose. Avec nous, c'était déjà, on peut faire ce qu'on voulait, quoi, le métier qu'on veut. Après, c'est le seul décalage, je te dis, c'était le nombre, il y avait beaucoup, beaucoup de garçons pour très peu de filles, en fait. Mais, on était presque chouchoutés, hein, finalement. C'est pas, j'ai pas, moi, en tout cas, j'ai une très très bonne expérience. Je garde de toutes ces années.
Ah oui, elle trouve qu'à son époque, les femmes n'avaient déjà plus trop besoin de lutter pour être dans le monde scientifique. Nous avons aussi les réponses de Karen. Écoutons-la.
Oui, mes parents étaient très surpris, comme j'étais mauvaise élève à l'école. Ça veut dire pour eux, soudain, quand je leur commençais à leur raconter que je veux partir à l'Uni, que je veux partir en Espagne, faire ça en espagnol, ils étaient très, très surpris. Et ils se demandaient un petit peu où j'allais aller. J'ai eu beaucoup de chance que j'ai un oncle à moi qui est professeur au collège de Sion, mathématiques, et lui m'a coachée.
Donc là, dans son cas, elle a été soutenue par ses proches dans ses études.
Oui, et en plus, elle a eu une personne en particulier qui l'a beaucoup aidée pendant la partie académique de son parcours. Comme Julia, qui pour elle, cette personne a été son père. Elle m'a raconté que c'était la personne la plus influente pour elle et qui l'a encouragée à devenir scientifique, mais qu'il a tout de même prévenu des potentiels obstacles qu'elle pouvait rencontrer à cette époque.
Ah oui, donc encore une fois, j'avais plutôt tort. Leurs proches sont là pour les encourager, même s'ils sont plus conscients des obstacles.
Oui, voilà. Et pour finir, Marzia Dalloutia, qui elle était sûre d'elle-même, même si ça a pu faciliter certaines choses.
Chaque décision que j'ai prise, je me suis rendu compte que c'était moi qui la prenais. J'étais assez pas assez convaincue, mais je voulais pas d'interférence. Donc, même si j'étais pas convaincue, j'étais indépendante.
C'est super, ce n'est pas si mal du tout là.
Oui, cette partie oui. En revanche, son choix n'a pas été très valorisé. C'était moins facile en Italie avec la vision de la société et la réaction de sa famille.
Ils ne sont pas opposés, mais après, je crois qu'ils sont regrettés, notamment parce qu'en Italie, faire la carrière académique est encore plus compliqué qu'ailleurs. Et le fait que je suis loin, surtout pour ma mère, c'est quelque chose de pas très accepté dans sa mentalité. Et puis en Italie, le système assez conservateur, où soit tu fais l'ingénierie, soit tu fais l'étude de médecine, voilà, des choses assez classiques. Et donc, non, pas très valorisé, je dirais.
Ah ouais, je vois, mais je m'imaginais largement pire comme situation. Leurs études académiques se sont plutôt bien passées et elles n'ont pas eu beaucoup de problèmes, même en étant en minorité.
C'est très vrai. Par contre, dans nos interviews, elles ont toutes dit que les problèmes apparaissaient surtout dans le monde professionnel.
Et attends, il manque la chanson. Faut qu'on finisse en beauté. Moi, je dis, on écoute Run the World de Beyoncé.
Quelle bonne idée! On vous laisse avec Beyoncé alors. À tout de suite! Nous sommes de retour, chers auditeurs et auditrices. Claire, ça te va si je commence avec une question pour toi ? Est-ce que tu suis l'actualité ? Enfin, est-ce que tu lis le journal régulièrement ?
Je sais pas, moi. Ouais, quand même un peu, oui, mais tu m'as préparé quoi comme chronique aujourd'hui ? On parlera de la presse ? Tu sais, j'aime bien ça.
C'est ça, enfin à peu près. On va regarder la relation entre les lecteurs d'un journal et un événement précis. On s'est dit que ce qu'on pouvait faire pour étudier ce rapport presse-événement est de regarder ce qu'un lecteur à l'époque pouvait lire dans les journaux et ainsi voir s'il aurait pu prévoir l'événement, s'il était attendu, etc.
Ah, et c'est pour ça que tu m'as dit de m'informer un peu sur la guerre froide. On va prendre un événement de la guerre froide, c'est ça ?
Exactement. On regardera ce rapport presse-événement avec l'insurrection de Budapest. Maintenant, vas-y, qu'est-ce que tu sais sur la guerre froide ?
Ah, parfait. Ça m'a resservi de faire mes devoirs. Alors, la guerre froide est le nom qu'on donne à la période de très forte tension entre les États-Unis et l'URSS. Les tensions se sont installées progressivement. Après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas eu de guerre directe, mais il y avait de fortes tensions militaires. Aussi, il y a eu des confrontations indirectes, en gros des guerres comme dans d'autres pays, des guerres du Vietnam ou de la Corée.
Exact. Cette relation compliquée se fonde dans les idéologies politiques très différentes entre les démocraties occidentales et les régimes communistes. Et puis, comme tu sais sûrement, il y a eu la course aux armements nucléaires et la course à l'espace.
Oui, bah les deux voulaient être la plus forte puissance du monde, quoi. Plus d'influence sur le monde, répondre leurs idéologies.
C'est ça.
Ok, on est tous au clair sur ce que c'est la guerre froide. Tu me montres les journaux des jours qui entourent l'insurrection de Budapest maintenant ?
Eh bien oui, j'y arrive. Mais d'abord, je t'explique un peu ce qui s'est passé, non ?
Oui, t'as raison. Vas-y, dis-nous tout, Nouria.
Allez, alors l'insurrection de Budapest est un mouvement qui s'est déroulé du 23 octobre au 10 novembre 1956 en Hongrie. C'était essentiellement un mouvement de révolte populaire et protestation contre le régime communiste en place à l'époque.
Vraiment ? Je ne savais pas qu'il y avait eu un soulèvement à ce moment-là.
Oui, c'était assez significatif. Tout a commencé par des manifestations étudiantes pacifiques, mais cela a rapidement pris de l'ampleur et s'est transformé en un mouvement de masse.
Ah ouais, ok, mais comment ça ? Ça a pris de l'ampleur, ok, et comment ça a évolué ? L'URSS, elle a réagi comment ?
Alors, les manifestants ont pris le contrôle de Budapest pendant plusieurs jours, exigeant la fin du contrôle soviétique et des réformes politiques. Cependant, les forces militaires soviétiques sont intervenues de manière brutale pour réprimer le soulèvement, causant de nombreuses pertes humaines.
C'est vraiment tragique. Et donc, c'était quoi l'impact de cette insurrection ?
Et ben, malgré son écrasement, l'insurrection de Budapest a laissé un héritage durable. Elle a inspiré d'autres mouvements de libération dans le bloc de l'Est et a mis en lumière les failles du système communiste.
Je vois, merci de m'avoir éclairé là-dessus, c'est super intéressant. Mais j'ai pas oublié les journaux, qu'est-ce que tu nous as ramené ?
Voilà les trois journaux de la Tribune de Lausanne, datant du 22 au 24 octobre 1956. C'était la veille de l'insurrection, le jour même et le lendemain de l'insurrection. On va donc parcourir ces journaux et nous mettre dans la peau des lecteurs de la Tribune de Lausanne d'il y a environ 60 ans pour découvrir comment le sujet a été abordé avant que la situation ne dégénère et surtout voir s'ils auraient pu l'imaginer ou s'y attendre.
Oh, c'est intéressant. Et qu'as-tu remarqué avec ces journaux ?
Bon, la veille de l'insurrection de Budapest, soit le 22 octobre 1956, il n'est nulle part fait mention de la Hongrie.
Vraiment, c'est étonnant. D'après ce que tu dis, c'était vraiment un événement marquant pourtant.
Oui, c'est la première chose qui m'a frappée. Mais dans ces journaux, la Pologne et l'URSS sont beaucoup évoqués.
Et quel est le lien avec la situation en Hongrie ?
En gros, d'abord, l'URSS et les États-Unis ont convenu de cesser les essais thermonucléaires. Et de plus, du côté de la Pologne, il y a eu pas mal d'agitation. Donc, pour résumer la situation, la Pologne se révolte et cherche à se détacher de l'URSS en raison de l'influence de Moscou.
Ah, je crois comprendre où tu veux en venir. Les agissements de la Pologne pourraient avoir un impact sur la Hongrie, n'est-ce pas ?
Exactement.
Ok, ok. Et le journal du 23 octobre, le jour de l'insurrection, il dit quoi ? Ah, il est là ?
Eh bien, oui. Pour commencer, on remarque qu'on parle un peu des Hongrois. En première page, dans un petit encadré intitulé « Le monde en 24 heures », il y a aussi un autre encadré sur une autre page dédiée à la Hongrie, intitulé « La jeunesse hongroise revendique une série de mesures libérales ».
Ah, intéressant. Attends, ils disent quoi dans ces articles ?
D'abord, ils évoquent la démocratisation en cours en Hongrie, avec un congrès du parti prévu pour consolider ce mouvement. Ces informations suscitent des questions intrigantes. Auraient-elles pu être perçues comme des signaux d'un changement imminent ?
Je dirais que oui, non ? Ça pourrait être un indicateur.
Exactement. Mais regarde, l'article suivant de ce quotidien nous amène à un tournant dans le prochain numéro.
Ah, je suis de tout ouïe.
Cet article fournit plusieurs indices sur une possible montée vers l'insurrection de Budapest en 1956. Il décrit les revendications libérales et nationalistes de la jeunesse hongroise, comme par exemple la liberté de la presse et une politique extérieure moins alignée de l'URSS. Pour l'instant, il n'y a pas de grosse meute, mais on sent que les gens s'attendent à des réponses à leurs revendications.
En bref, ce sont tous des éléments qui indiquent une tension croissante qui pourrait déboucher sur une révolte si les demandes ne sont pas satisfaites.
Oui, surtout qu'on dit clairement que les étudiants exigent tous ces changements. Donc très bien vu. Un indice est là.
Moi, je trouve qu'on sent vraiment que quelque chose se prépare en coulisses. On commence à comprendre que ça pourrait potentiellement déclencher quelque chose de plus grand que prévu.
Oui, enfin, on a aussi le journal du 24 octobre. C'est là, c'est-à-dire le jour d'après.
Ah, voilà. Là, je pense qu'ils ont eu le temps de décrire des articles dessus. Ils en ont plus parlé, non ?
Ouais, je pensais aussi, mais il faut garder en tête qu'ils n'avaient pas vraiment le temps. Donc, ils n'ont pas parlé autant que ce qu'on croirait.
Ah ouais, c'est fou. Vas-y, montre.
Oui, regarde. Déjà, sur la première page, on n'en parle pas du tout. C'est en allant à la page 10 que Budapest est mentionné.
Ah ouais, mais la première chose qu'on remarque, c'est que ça ne prend pas beaucoup de place. Et c'est en bas à gauche, donc pas très mis en avant. Par contre, ce qui peut confirmer ton hypothèse sur la disposition des journalistes est le fait qu'on a quand même une dernière heure qui parle de l'insurrection de Budapest. L'emplacement est assez étonnant, non ?
Oui, c'est un peu ça. Bon, y a des articles de partout. Et puis, en bas, celui qui parle de Budapest, il dit « 200 000 Hongrois revendiquent des élections générales libres ».
Ah, regarde, tu m'excuseras. Je relisais ça pendant que tu m'as parlé, mais ça m'explique plus en détail ce qui s'est passé. Ils avaient organisé une démonstration de masse devant le monument du général Joseph Ben, héros d'origine polonaise de la Révolution hongroise de 1818. Et juste après, il écrit « Cette démonstration avait pour but d'exprimer la solidarité de la population de Budapest avec le peuple polonais et d'appuyer les revendications de ce dernier ».
Exact, oui. Donc on peut donc dire que le fait qu'on en parlait autant de ce qui se passait en Pologne pouvait être un indice pour le lecteur.
C'est vrai, mais aussi, je n'avais pas l'impression qu'ils y donnent beaucoup d'importance au niveau de la durée du numéro, non ? Le journal parle pas de prochaine manifestation ni rien du style. J'ai l'impression qu'il pensait pas que ça serait ponctuel.
Oui, t'as raison. On dirait que c'est une fois pas deux. En plus, le ministre de l'Intérieur a interdit la manifestation. Donc peut-être il s'attendait à une moins grande ou plus courte révolte, étant donné que l'État l'a interdit.
Ah oui, pas faux. Et c'est là que le journal informe très clairement sur leurs revendications, non ?
Oui, bah, y a eu beaucoup de revendications, toutes assez demandant un changement très radical.
Les demandes, elles sont écrites en gras dans le journal. Et en plus, c'est vrai que ce sont des demandes radicales. Donc je pense que le lecteur peut bien voir qu'un changement important allait avoir lieu. Au moins, voilà quoi.
Ouais, par contre, je voulais juste souligner un dernier truc. Regarde ce dernier paragraphe. Ça parle de la fin de la manifestation. Donc vraiment, on dirait qu'ils n'en donnent pas beaucoup d'importance.
Cette manifestation de caractère essentiel national par sa spontanéité et ampleur a pris fin vers 17h45, non ?
Oui, exactement, c'est là que je lisais. De caractère national par sa spontanéité. Si c'est spontané, c'est qu'on ne s'y attendait pas forcément, non ?
C'est super intéressant, vraiment. Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais vraiment que surtout les événements se situent en pleine guerre froide, que les tensions et de n'importe quel type seraient directement mises en avant dans la presse.
Oui, c'est intéressant comme exercice, hein. Et regarde, on pourrait aller plus loin en regardant les journaux des jours où les Hongrois étaient en pleine révolte. C'est moins le sujet, mais je n'ai pas pu m'empêcher de faire de le faire. C'est regarder ces quelques jours plus loin, donc le 25, le 26 et le 27. Et c'est vraiment là où on prend beaucoup plus importance. Je pense aussi que les journalistes ont pu s'informer et créer des articles de presse plus longs. Regarde, le bulletin du jour du 25 octobre est après la Pologne, la Hongrie. Et en plus, la moitié de cette dernière page du journal parle des sanglants événements en Hongrie.
Ah oui, alors là c'est clair. Une fois que ça a débuté, ça ne change complètement. Là, les lecteurs sont bien plus au courant.
Bah, j'ai regardé encore deux jours plus tard. Regarde là, on peut lire des titres comme l'illusoire bouclier de l'URSS comme bulletin du jour du 26 octobre et encore toute une page dédiée à ce conflit.
Ah ouais, regarde, la guerre civile en Hongrie, l'insurrection s'étend, etc. Et puis du coup, aussi le Vatican. Demande aux Hongrois de faire cesser l'effusion de sang.
Oui, c'est vrai. Et encore, j'en ai regardé encore un dernier, le journal du 27 octobre. On a aussi presque une page entière dédiée à cette révolte qui commence par « Les combats continuent à Budapest et en province ».
Donc, comme on a vu, le lecteur de l'époque n'avait pas beaucoup d'indices qui lui auraient laissé imaginer où s'attendre cet événement. Les journaux des deux jours qui précèdent l'événement sont pas très remplis à ce sujet. Pourtant, une fois que la révolte hongroise a débuté, on s'y est beaucoup plus intéressé, ce qui montre que c'était assez imprévisible et qu'en lisant l'actualité de l'époque, on ne pouvait pas s'attendre à un événement d'une telle importance.
Très belle conclusion, Claire. Merci. Et bon, là, je pense que c'est le moment de conclure et de remercier nos auditeurs d'être restés avec nous pour partager un bon moment. On vous laisse avec le morceau Sunday Bloody Sunday des U2.